Bonjour à tous. Le 4 mars dernier, à la médiathèque de Bourges, 6 classes du Cher ont rencontré le poète Simon Martin. Dans quelques secondes, vous entendrez les élèves de la classe de CM1 de l'école élémentaire Barbès à Bourges qui ont partagé un moment privilégié avec Simon et l'ont interviewé. Ensuite, vous pourrez écouter des extraits des différents temps d'échange entre le poète et les classes.
Bonjour, nous sommes les élèves de CM1 de l'école Barbès. Nous sommes heureux d'interviewer le poète Simon Martin. Nous avons lu certains de vos poèmes et nous aimerions vous poser quelques questions.
Bonjour.
Bonjour.
À quel âge avez-vous commencé à être poète ?
Alors j'ai commencé à être poète, c'est-à-dire à écrire des poèmes, à l'âge de 20 ans.
Étiez-vous bon à l'école ?
Moyen. J'avais souvent un peu mieux faire, comme appréciation.
Pourquoi êtes-vous parti en Roumanie pendant 5 ans ?
Eh bien, je suis parti avec une association humanitaire.
Aimez-vous les enfants ?
Oh oui, surtout au petit déjeuner.
Est-ce que vous avez des enfants ?
Oui, j'ai 2 enfants.
Avez-vous un autre travail ?
Ah oui, ben je travaille justement dans une radio associative.
Comment avez-vous fait pour débuter de la radio ?
J'ai un très bon ami à moi qui est poète d'ailleurs également et qui travaille à la radio. Et un jour il m'a dit qu'il y avait une place qui se libérait. Alors je n'y connaissais rien à la radio, mais j'ai appris sur le tas comme on dit, j'ai appris en faisant le métier.
Aimez-vous travailler à la radio ?
Ah beaucoup, oui, beaucoup. J'aime beaucoup travailler à la radio, d'autant plus que la fille de l'autocar travaille elle aussi à la radio.
Travaillez-vous plus en tant que poète ou en tant que personne qui travaille à la radio ?
C'est pas facile à dire parce que j'ai l'impression que en tant que poète, je travaille tout le temps un petit peu, tu vois ? Et ça m'arrive même, j'espère que mes patrons m'entendront pas, mais ça m'arrive même à la radio d'écrire des poèmes. Parce que je peux avoir des choses inspirantes ou qui m'arrivent pendant la journée de travail. Donc, c'est la poésie, j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu tout le temps. C'est un peu comme quelque chose qu'on rumine tout le temps. C'est comme les vaches, elles mangent de l'herbe, et ensuite toute la journée, elles ruminent quelque chose. Donc c'est un travail un peu caché, heureusement. Hein.
Maintenant, nous aimerions vous poser des questions sur votre métier de poète. Pourquoi êtes-vous devenu poète et pas électricien ?
Très bonne question. Parce que j'ai choisi, je préfère être poète. Alors ceci dit, c'est pas le même poète, c'est pas vraiment un métier comme celui d'électricien. Parce que je ne suis pas payé pour écrire des poésies. Quand un livre est créé, quand un livre est publié, les gens achètent le livre et je touche un tout petit pourcentage du livre qui est vendu. Tu vois ? Mais si être poète, c'est écrire des poèmes, je ne suis pas payé pour écrire des poésies. On ne me dit pas... Ah bonjour monsieur Martin, je voudrais un poème sur le thème de la vache, voilà 50 euros. Non, ça marche pas comme ça. Donc c'est quand même très différent du métier d'électricien. Et je pense qu'on peut être un très bon électricien et un très bon poète. D'ailleurs j'ai toujours rêvé d'être électricien.
Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire des poèmes ?
La première chose qui m'a donné envie de faire des poèmes, c'est de lire les poèmes des autres poètes. Et je me souviens... De certains quand j'ai commencé à découvrir la poésie, de la lecture de certains poètes, donc je découvrais la poésie contemporaine, la poésie qui s'écrit aujourd'hui, et ça me bouleversait totalement. J'étais totalement bouleversé par ce que je lisais, et ça m'a donné envie justement d'en écrire moi-même. C'est tellement bouleversant, j'aimerais moi aussi écrire des choses comme ça. Alors malheureusement on n'écrit jamais comme les autres. On ne peut écrire que comme on est nous. Mais quand on écrit la poésie, on est très influencé par les autres poètes. Et puis, y a quand même, quand on apprend à écrire de la poésie, souvent on copie les autres poètes. Enfin, on est très influencé par eux, on les copie un petit peu, ce qui est normal.
Comment avez-vous débuté votre carrière ?
Ma carrière de poète ?
Oui.
En écrivant mon premier poème. C'était le début de ma carrière de poète.
Comment avez-vous fait pour publier votre premier poème ?
Pour publier, alors là, tous les poètes partent de la même façon. Hein, on écrit des poèmes et puis après on les envoie à des éditeurs. Alors au début, on en envoie à beaucoup d'éditeurs. Et puis on en envoie par exemple à 10 éditeurs, puis il y en a 9 qui vont vous dire c'est pas très bien, on va pas vous publier. Et puis il y en a un qui va vous dire ok, on vous publie. Et moi, le premier livre que j'ai publié, et ça je le dis à chaque fois parce que c'est quelque chose de très important pour moi, il a été publié par quelqu'un qui s'appelait Francis Crumble, qui était lui-même un poète, c'était une toute petite maison d'édition, un petit livre presque fait à la photocopieuse. Mais Francis Crumble, c'est devenu un de mes meilleurs amis. Et c'était un grand poète et c'était un grand éditeur. Il a publié beaucoup de gens, même s'il n'avait pas beaucoup de moyens. Et il a organisé des festivals de poésie. Et j'ai un très très bon souvenir de Francis, parce que maintenant il est mort. Mais sa maison d'édition, et puis d'avoir travaillé avec lui pour faire des livres avec lui, c'était un très très bon moment. Mais je dois avoir beaucoup de chance, parce que l'éditeur avec qui je travaille aujourd'hui, Chen, avec Elsa Palot entre autres, et puis Jean-François Magnier pour le livre « Comment je ne suis pas devenu peintre », et donc Elsa Palot pour les autres livres, j'ai aussi des très très bons rapports avec eux, donc c'est très agréable de travailler avec eux. C'est pas tout à fait des amis, parce qu'ils habitent très loin, et puis je les vois pas beaucoup, alors que Francis, je le voyais beaucoup plus, mais ce sont des gens que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, qui font un très bon travail. Donc j'ai de la chance pour avoir trouvé des éditeurs comme ça.
Comment avez-vous fait pour écrire de si jolies poésies ?
C'est gentil de dire qu'elles sont si jolies. Hein. Moi j'ai écrit comme je pouvais écrire, j'ai écrit du mieux que je pouvais avec mon langage à moi. Après je suis content que tu les trouves jolies. Merci.
Quelles sont les choses qui vous inspirent ? Famille, amis, nature ?
Famille, amis, nature. Tout m'inspire. Tout m'inspire. Le cadavre d'un oiseau mort va autant m'inspirer qu'un magnifique roseraie, tu comprends ? Moi, je fais pas de différence. Pourquoi il n'y a pas des choses belles et puis des choses moches ? Tout peut m'inspirer, tu vois. Tout peut m'inspirer. Un petit caillou peut m'inspirer aussi bien que le chant du merle. C'est ça qui... Donc je fais pas de catégorie entre les choses qui m'inspirent et qui m'inspirent pas. L'information peut m'inspirer aussi bien effectivement que la confidence d'un ami. Tout m'inspire. Enfin, tout est susceptible de m'inspirer, en tout cas.
Est-ce que c'est difficile d'être un poète ?
Alors, d'écrire de la poésie, on va dire que être poète, c'est quand même écrire de la poésie. Parce que je dis ça parce qu'on pourrait prendre être poète comme une attitude, une certaine forme d'attitude, une certaine façon de voir le monde. Donc dans ce cas-là, il n'y a aucune difficulté puisque c'est ce qu'on est. Par contre, écrire de la poésie, oui, c'est pas facile. C'est pas facile, ça demande beaucoup de temps. Alors, parce qu'au début, on écrit des poèmes et puis on en jette beaucoup. Et puis j'ai mis beaucoup de temps avant d'écrire des poèmes dont j'étais fier. Tu vois, enfin, fier en tout cas... Que j'avais le courage de présenter à d'autres personnes. Hein, pouvoir dire, voilà, j'écris de la poésie, voilà. Avant de pouvoir le présenter à d'autres, j'ai écrit beaucoup de poèmes qui sont partis dans la corbeille à papier, hein, énormément. Donc c'est pas facile parce que on apprend aussi à écrire de la poésie, on apprend. Ça s'apprend, c'est pas qu'il y ait des recettes véritablement, mais c'est plus forcément une habitude. Et puis à force d'écrire, on se forge son propre langage. Et puis une fois qu'on a son propre langage, c'est comme si on avait un outil qui était tout à fait adapté à notre main, c'est plus facile. C'est plus facile. Mais c'est jamais gagné la poésie. C'est jamais gagné... On ne sait pas si un poème va être bon ou mauvais. Et moi encore aujourd'hui, j'ai souvent des manuscrits, c'est-à-dire des poèmes qui sont refusés par des éditeurs. Ils disent « Non, ça c'est pas bien du tout. Hein. » Ça arrive, hein. Ça m'arrive souvent. Hein. Donc tu vois, c'est jamais fini, heureusement d'ailleurs. C'est jamais fini le travail d'écrire de la poésie. Et c'est toujours... C'est jamais très facile non plus.
Maintenant, nous aimerions vous poser des questions sur vos poèmes.
Pourquoi avez-vous choisi d'appeler votre livre « La fille de l'autocar »
Parce que c'est le meilleur titre du monde. Pour ce livre-là, c'était le meilleur titre possible. Avouez-le.
Oui. Le poème de la fille de l'autocar est-il vrai?
Tout est vrai. Dans ses moindres détails.
Écrivez-vous d'autres livres?
J'ai toujours des projets de livres en cours, oui. Oui.
Le poème Dans ma maison décrit-il votre maison?
Oui, il décrivait ma maison, mais j'ai déménagé il y a un an. Mais sinon, ça décrivait ma maison, oui. Donc, c'est mon ancienne maison.
Comment donnez-vous le titre à vos livres?
Ah ben, le titre, c'est très difficile. Hein. C'est une très bonne question. Hein. Parce que j'ai le sentiment que quand j'ai trouvé le titre du livre, c'est comme si j'avais une vision complète du livre. Tu vois? Donc, c'est une grosse partie du livre. Et par exemple, ça fait... à peu près 3-4 ans que je travaille sur un ensemble de textes, sur un livre, mais je n'avais pas le titre. Et tant que je n'avais pas le titre, eh ben je sentais que quelque chose n'était pas équilibré dans le livre. Et du jour où j'ai trouvé le titre, les choses se sont mises en place et le livre a commencé véritablement à prendre forme à partir de ce moment-là. Avant, ce n'était que des ébauches. Donc le titre, c'est très important. Mais dans avec les livres que j'ai fait, les quatre livres que j'ai fait dans la collection Poèmes pour grandir chez Chêne, oui. Les titres ont été vraiment une évidence. Avec mes deux mains, dans ma maison, qui es-tu? Quoique, qui es-tu, le titre, j'ai beaucoup hésité sur le titre. Puis La fille de l'autocar, ça a été des évidences. Une fois que j'avais trouvé ce titre-là, eh ben je savais ce que je voulais mettre dans le livre, en tout cas. Tu vois?
Est-ce que vous écrivez toujours vos poèmes sous forme de livre?
Non, parce qu'il y a beaucoup de poèmes que j'ai écrits qui n'arriveront jamais dans des livres, tu vois. Parce que un poème, c'est une chose, un livre, c'est autre chose. Un livre, il faut qu'il y ait une certaine cohérence entre les poèmes, une certaine homogénéité. C'est un peu une période de la vie, un livre. Alors que parfois... La vie va plus vite, parfois l'écriture va plus vite que la vie, parfois c'est la vie qui va plus vite, et puis c'est pas forcément en adéquation, donc il y a des poèmes qui n'entrent dans aucun livre que j'ai écrit.
D'accord. Parmi les livres que vous avez écrits, lequel préférez-vous?
C'est comme dans une famille, on aime toujours le petit dernier, hein. C'est toujours le chouchou, donc La fille de Tocard.
Est-ce que vous êtes fier de vos livres?
Alors il y a un très grand avantage à écrire de la poésie, et ça je le dis très sérieusement sans aucune ironie, c'est qu'en écrivant de la poésie, un, on ne deviendra jamais riche, et deux, jamais célèbre. Et moi je trouve personnellement que c'est un très grand avantage, parce que ça nous permet d'écrire exactement comme on doit écrire et comme on veut écrire. Alors que malheureusement, quand on commence à devenir riche et célèbre, eh bien systématiquement, ou très très souvent, il y a beaucoup de pression qui arrive et les gens vous poussent à faire des choses, vous influencent beaucoup pour faire ceci ou cela. Et bien en poésie, ce n'est pas le cas et c'est tant mieux.
Préférez-vous écrire vos poèmes ou les lire?
Les écrire quand même, je préfère les écrire. Même si je prends beaucoup de plaisir à lire mes poèmes, surtout devant les classes, j'avoue. Avec Thomas qui m'accompagne au violon, je prends quand même beaucoup de plaisir.
Pour vous remercier, nous souhaitons vous lire un extrait de l'un de vos poèmes, Qui es-tu?
Qui es-tu? Tu n'es ni tout à fait ceci, ni tout à fait cela. Pas vraiment ci, ni vraiment ça non plus.
Pas complètement comme ça, pas totalement comme ça. On pourrait dire que tu ressembles à ça, mais pas tout à fait. Que tu fais penser à ceci, mais pas toujours. Parfois tu es comme ci, parfois tu es comme ça. Tu peux se réveiller le matin comme ça et te coucher le soir comme si. Je voudrais bien pouvoir te définir, te classer. En finir avec ce flou, ces incertitudes, mais voilà.
Tu n'es ni ça, ni ça, ni ça et ni ça non plus. Alors par où commencer?
Tu marches, tu cours, tu sautes et tu ne sais pas rester en place. Mais parfois, ton ombre grandit et ton corps devient si grand que même un bulldozer ne pourrait le bouger.
Ce qui me fait dire que tu appartiens peut-être au monde minéral.
Tu parles, tu chantes, tu racontes des histoires.
Mais parfois, quand la forêt frémit et que toutes les feuilles s'agitent en même temps, je crois entendre ta voix.
Ce qui me fait dire que tu n'appartiens aussi au règne végétal.
Tu as une colonne vertébrale par où grimpent les frissons et les sueurs froides.
Mais soudain, tu ramollis et tu te laisses glisser dans un rêve d'éponge.
Ce qui me fait dire que tu as peut-être pris par mégarde l'embranchement des vertébrés. Simon Martin, extrait de Qui es-tu ?
Merci.
Nous vous remercions d'avoir accepté de nous rencontrer, d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes heureux d'avoir partagé ce moment avec vous.
Mais c'est réciproque. Merci beaucoup. Trois arrêts sur le parcours. Au premier, la porte s'ouvre, la chanson du Merle monte à bord. Au deuxième, la porte s'ouvre, une fleur de Polonia monte à bord. Au troisième, la porte s'ouvre, le ciel aplatit sa grosse langue bleue sur ma joue et monte à bord. Terminus, la porte s'ouvre, la fille de l'autocar descend, et avec elle, le chant, le parfum, l'azur.
Pourquoi la poésie en particulier ?
Ben parce que je peux pas faire autrement. La poésie, c'est quelque chose qui... Moi, je me lève la nuit pour écrire des poèmes. Ça m'a tout le temps... J'y pense tout le temps. J'ai toujours un carnet sur moi pour écrire des trucs. Et alors pourquoi je... C'est très difficile comme question, tu vois. C'est d'autant plus difficile que parfois, je me dis, c'est pour ça. Et puis après, je me dis, oh ben non, finalement, c'est pour autre chose. Tu comprends ? La dernière fois, j'étais devant une des classes aussi à Surgères. Et puis, je leur ai dit, ils m'ont posé cette question-là, parce que c'est la question qu'on pose. Moi, je dis, voilà, la poésie pour moi, c'est comme ci, comme ça, c'est important pour telle raison. Et puis, j'étais tout à fait content de ma réponse. Et puis, je suis rentré ensuite chez moi, et puis, je tombe sur un nouveau livre que je lis. Je dis, oh, en fait, ce que je leur dis, c'est n'importe quoi. La poésie, c'est pas du tout ça, c'est plutôt ça, ça et ça. Donc, ça reste une question très compliquée. Enfin, en tout cas, j'écris de la poésie. Aussi parce que, comme je vous ai dit au début, j'ai pas beaucoup d'imagination pour écrire des histoires. J'en ai fait quelques-unes, mais je préfère écrire la poésie. Parce que la poésie, ça raconte la vie, ça raconte ma vie, ça raconte la vie des autres. Tu comprends ? Les choses qui se passent autour de nous. Sûrement que peut-être, enfin, non, pas sûrement, mais peut-être que la rencontre d'aujourd'hui, certains d'entre vous termineront dans un poème. Vous voyez ? On sait pas, tout peut être prétexte à la poésie.
Pourquoi la poésie, c'est un deuxième métier ? Ou une passion ?
Je dirais pas que c'est un métier. Parce que j'ai un métier à côté. Hein, voilà. Et puis, quand on fait un métier, on est payé pour ce qu'on fait. C'est-à-dire, si la poésie, c'était un métier pour moi, il faudrait par exemple qu'on me dise, « Bon, ben Simon, tu vas écrire un livre et puis je vais te payer tant. » Tu comprends ? Mais le problème avec la poésie, c'est comme je vous dis, on n'est jamais sûr de rien. Par exemple, ce livre dont je vous parlais, ça fait 4 ans que je l'écris. Si quelqu'un m'avait demandé de l'écrire en un an, j'aurais été impossible de l'écrire. Ça n'aurait pas été possible pour moi de l'écrire en un an, par exemple, ou en 3 mois, tu vois. Alors qu'un métier, quand même, on s'attend à du résultat. Si ta voiture est en panne, tu l'emmènes chez le garagiste, tu t'attends à ce qu'il la répare dans les jours qui viennent. Si tu dis, c'est peut-être que je vais la réparer, mais peut-être pas. Peut-être ça sera dans un mois, peut-être ça sera dans 10 ans. C'est compliqué quoi. J'ai envie de dire, je vais aller à un autre garagiste. Mais c'est pour ça que je trouve ça difficile de parler de métier en poésie. À cause de cette raison-là.
La main de la fille de Descartes croise le zou de son écharpe. Je contemple ses ongles colorés, ses délicats doigts de rose, 20 cm les séparent de ma propre main. 20 cm impossible à franchir. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre, le tocard et le yo-yo sur la banane.
Le passage d'une fille dans cette pierre, le frôlement d'un tigre contre les nains, ne sont que 21 variations d'un même départ. Simon Martin.
Bravo.
La fille de l'autocar.
Aujourd'hui,
la fille de l'autocar
est un des adores.
L'autocar se traîne
du village en village
sur une route ensanglée,
vous savez. À travers les vitres
de l'autocar,
rien
qu'un épais
voile de tout.
Est-ce cela
ce qu'on appelle
la solitude dans la solitude,
Simon Martin.
Bravo.
Soleil couchant. L'autocar tressaute sur la route comme un troupeau de gnous. Cela tombe bien puisque ce soir, les grandes plaines de Beauce ont un petit air de Serengeti. La fille de l'autocar aime les secrets. Ce qu'elle pense virevolte, insaisissable. Je ferme le poing pour saisir quelque chose, mais quand je desserre les doigts, je n'ai que son sourire au creux de ma paume. Plongée dans son livre, la fille de l'autocar m'ignore. Le paysage passe, tour à tour, enneigé, parfumé, doré, venteux. Pendant ce temps, mes cheveux poussent, ainsi que mes ongles et ma barbe avec ses reflets roux. À mi-parcours, ma vue baisse. Au terminus, me voilà gâteux. Je sors de l'autocar, fossilisé par les ans. Ben pourquoi ? Parce que tous les poèmes, c'est la même réponse. C'est-à-dire que c'est des choses qui me sont arrivées et qui m'ont semblé extraordinaires quand elles me sont arrivées. Alors, en elles-mêmes, vous allez me dire, elles ne sont pas extraordinaires. Il n'y a pas de dragon qui attaque un village. Il n'y a pas de trésor. Il n'y a pas tout ça. Mais quand on y réfléchit un peu, ce qui se passe, la moindre chose qui se passe aujourd'hui, là, le fait que vous soyez là, le fait que tu joues avec ton écharpe, les choses, non, c'est pas grave, hein. Ou que tu lèves la main, ça n'arrivera qu'une fois. La façon que tu as de tourner ton écharpe, les choses n'arrivent qu'une fois dans la vie. Donc toutes les choses qui arrivent sont uniques et singulières. Et comme elles sont uniques, c'est important d'écrire dessus. Enfin, je trouve qu'elles prennent de la valeur à mes yeux parce qu'elles sont uniques et singulières. La moindre chose qu'on fait, on l'a fait qu'une fois. Même si je refais plusieurs fois le même geste, oui, il faudrait poser la question à Thomas. Parce que quand il fait de la musique, il suit des partitions. Donc on pourrait se dire, Thomas, tu joues toujours la même chose. Est-ce que c'est vrai ?
Non, je ne joue jamais pareil. Ça dépend de mon humeur, du moment, quoi. Un moment, on va jouer d'une telle façon, le lendemain, on va jouer d'une autre façon, mais la même musique, mais tout dépend de si on s'est levé du pied gauche, si on a vu un rayon de soleil traverser les nuages, magnifique, on va pas jouer pareil. Voilà.
Mais toutes les choses sont uniques. Donc même si on a l'impression de faire les mêmes choses, de se lever tous les matins à la même heure pour aller à l'école, en fait, quand vous réfléchissez un peu, c'est jamais pareil, quoi. C'est jamais pareil. Ouais.
Pourquoi avez-vous faire ce
métier ? Eh ben pour rendre compte de cela, sûrement. De ce caractère unique des choses. Parce que si je le fais pas, personne ne le fera, parce que les gens ont l'impression que ce sont des choses tout à fait ordinaires. Tu comprends ? Alors c'est des choses ordinaires, alors on fait pas attention, on passe à côté, et puis après on passe à autre chose. Et en plus, ce sont des choses qui me sont arrivées à moi. Donc, personne d'autre, là, pour le coup, peut les raconter. Que moi qui peux les raconter. Alors c'est sûrement pour ça, tu vois.
Là, c'est déjà très bien d'être avec vous, on fait pas ça tous les jours.
Alors merci, c'est gentil. C'est vraiment bon. Merci.
La fille de l'autocar. Enfournie ma lunette bleue, je prends le petit matin par le col et le secoue pour en faire tomber la pluie. Aujourd'hui, tout m'exaspère. Les roulis de l'autocar, les champs au regard vide et même les jonquilles qui fleurissent sur les longs points. Quand soudain, je tourne la tête vers la fille de l'autocar. Le soleil sort du bois. Ce matin, un ciel colmodé accueille l'autocar à bras ouverts. Et avec lui, les lièvres qui dansent en rond dans les champs, la gramine sur le tapis, la traînée. Et même son nom, Simon Martin.
Bravo!
De la fille de l'autocar, je ne connais que le profil gauche.
La moitié de sa chevelure
ses mains tantôt ici, tantôt là,
ses cuisses qui n'avouent jamais,
et rien en dessous du genou.
Bravo!
La fille de l'autocar aime les secrets. Ce qu'elle porte se virevolte insaisissable. Je ferme le pouce pour saisir quelque chose.
Mais quand je desserre les doigts, il n'y a que son sourire au creux de ma main.
Ce que dit la fille de l'autocar se mélange à l'air. Je respire. L'air entre dans mes poumons, se mêle à mon sang. Pompé par mon cœur, mon sang irrigue les moindres recoins de mon corps. Ce que dit la fille de l'autocar n'a pourtant l'air de rien. À travers ce paysage que je connais depuis toujours, la fille de l'autocar, c'est la surprise qui fait battre le cœur. Chaque parcelle de son corps est une terre sauvage à explorer. Lorsque la fille de l'autocar s'assied sur la banquette, je m'enfonce dans l'inextricable jungle de mes sentiments. Exactement. J'ai toujours un carnet dans ma poche. J'ai toujours un carnet et je note tout, plein de choses que j'entends ou parfois des phrases que j'entends parce qu'elles sont rigolotes. Et puis parfois simplement des trucs auxquels je pense, du moment. Et le poème, il commence très souvent avec le carnet, effectivement. Des petits trucs que je note et puis après que je retravaille après pour en faire un poème.
Pour certaines personnes, être poète, c'est un moyen de s'exprimer. C'est la même chose pour vous ?
Ah ben c'est forcément un moyen de s'exprimer, tout à fait. Alors là tu abordes des questions peut-être un peu plus complexes, mais qui est la question du langage. Parce que dans un poème, on a le droit à toutes les formes de langage, on a le droit. On a le droit de dire « tes yeux sont tombés sur tes genoux ». On a le droit de mélanger du présent avec du passé simple. On a le droit d'inventer des mots. Il y a des poètes très célèbres qui ont des poèmes où ils ont inventé tous les mots. Il y a une liberté dans l'expression, dans la poésie, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Tu ne la trouves pas dans les romans, tu ne la trouves pas dans les essais, tu ne la trouves pas dans les histoires. La poésie, c'est la liberté de parler comme on veut. Ça, c'est le principe même de la poésie. Tu comprends ? Ça ne veut pas dire que tu peux dire n'importe quoi, n'importe comment. Enfin, si tu veux, ça ne veut pas dire que les autres vont apprécier ce que tu dis, en tout cas. Tu vois ? Si je te fais c'est la liberté d'expression, mais ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, dans la forme de la poésie, c'est justement ça, sa spécificité. C'est de pouvoir utiliser le langage d'une manière totalement libre. Et c'est très important d'utiliser le langage de manière totalement libre. Parce qu'on a tendance, autour de vous, quand vous lisez les journaux, quand vous regardez la télévision, quand vous écoutez parfois les adultes, et même entre vous, eh bien, faites un petit peu attention, mais vous vous rendrez vite compte que vous utilisez les mêmes expressions, les mêmes mots. Il y a beaucoup de choses qui reviennent, qui sont très communes à une génération ou une époque. Et le problème, c'est que quand vous utilisez les mots des autres, les mots de tout le monde, c'est plus vos mots à vous. Alors, comment vous voulez que quelqu'un vous comprenne quand vous dites quelque chose d'important si ce ne sont pas vos mots à vous ? Bah, c'est les mots de tout le monde. Alors finalement, on n'écoute plus. Il y a beaucoup de gens, on les écoute plus. On sait déjà ce qu'ils vont dire parce qu'ils utilisent les mots de tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser ces mots à soi. Ça, c'est hyper important. Et la poésie, ça apprend ça. C'est l'intérêt de la poésie par rapport à une autre forme d'écriture.
Ce que dit la fille de l'autocar se mélange à l'air. Je respire.
L'air entre dans mes poumons, se mêle à mon sang.
Pompé par mon cœur, mon sang irrigue les moindres coins de mon corps.
Ce que dit la fille de l'autocar n'a pourtant l'air de rien.
Un chapeau rouge, une tillasse châtain, sèche comme des herbes de rond-point, une queue de cheval.
Ici, un casse brun, pas un cheveu qui dépasse, là, une toison noire et odorance.
Parmi toutes les chevelures qui débordent de sa tête, celle de la fille de l'autocar, c'est le chemin des nuages.
Autant mes chaussures, je m'y engage sur la pointe des pieds.
La fille de l'autocar n'aime pas la musique contemporaine. L'accordéon argentin, les leaders de Malheur, la voix déchirante de Billie Holiday, les chansons de Barbara, Michel Legrand, Michel Petrucciani, Michel Portal. Mais surtout, la fille de l'autocar n'aime pas que je me souvienne de tout cela. Mes nuages descendent bas sur la campagne. La route, plus grasse que de coutume, colle aux roues. À chaque rond-point, l'autocar se déchire et s'extirpe à grand-peine de la circulation. Mon sac sur les genoux, je ne desserre pas les dents. À quoi bon sourire à la vie, puisque la vie est partie en voyage scolaire. Renfrogné, mal luné, bourru, je prends le petit matin par le col et le secoue pour en faire tomber la pluie. Aujourd'hui, tout m'exaspère. Les roulis de l'autocar, les champs au regard vide, et même les jonquilles qui fleurissent sur les ronds-points. Oui, t'as retrouvé ta question.
Est-ce que la fille de l'autocar, elle vous a aidé à écrire
son
poème ?
Eh bien, quelque part, oui. C'est une très bonne question, mais quelque part, oui. Parce qu'avant de connaître la fille de l'autocar, moi, les oiseaux, par exemple, je ne connaissais aucun, je connaissais le pigeon. Je connaissais le pigeon blanc, je connaissais le pigeon gris, et je connaissais le pigeon-pigeon. Et puis le pigeon qui se pose sur les arbres, et puis le pigeon qui se pose sur les statues. Ça faisait... Je connaissais que ça comme oiseau. Ça fait beaucoup déjà, mais ça ressemblait beaucoup au pigeon. Je ne connaissais pas d'autres oiseaux. Et elle m'a vraiment ouvert les yeux sur le monde des oiseaux, parce qu'elle aime beaucoup les oiseaux. Donc quelque part, oui, elle m'a aidé à écrire. C'est pas qu'elle m'a aidé, c'est même qu'elle a été l'inspiratrice de tout le livre, tu comprends ? C'est même un peu plus que aider, hein.
Est-ce que vous choisissez le titre avant la poésie ou après la poésie, vous choisissez le titre ?
C'est une très très bonne question, ça. C'est une très bonne question. Parce que les titres... Alors parfois, tu as des poèmes qui ont des titres. Bon, c'est à l'intérieur d'un livre, le poème a des titres. C'est moins grave, ça. Généralement, il vient après ou avant. Mais le plus dur, c'est le titre des livres. C'est extrêmement difficile, ça. Et ça, c'est très mystérieux. Et j'ai ma propre théorie. Hein. Parce que, par exemple, ça fait 4 ans que j'essaie d'écrire un livre. Et le titre ne me venait pas. Alors, j'avais plusieurs versions, et donc mes poèmes étaient bien, ils étaient quasiment finis. Mais je me dis, c'est bizarre, j'ai pas de titre, j'arrive pas à trouver un titre. Et en fait, je n'arrivais pas à trouver un titre parce que le livre n'était pas fini. Et là, j'ai enfin trouvé un titre pour ce livre-là. Et là, je me dis, maintenant que j'ai trouvé le titre, même si j'ai pas beaucoup changé de choses à l'intérieur des poèmes, mais ils ont quand même évolué, maintenant que j'ai trouvé le titre, ça veut dire que le livre est fini. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Ça veut dire que je... qui fait vraiment partie de moi, vous comprenez ? J'ai vraiment compris ce que je voulais écrire, et c'est vraiment consciemment que j'ai écrit ça. Donc c'est... voilà. Parfois ça peut venir tout de suite. Parfois ça peut venir tout de suite, parce que par exemple, un livre comme « Avec mes deux mains » ou « Dans ma maison », où les titres sont assez simples, hein. Je savais que je voulais écrire un texte sur les mains. Donc tu comprends ? Donc avec mes deux mains, ah oui, ça serait bien d'écrire un... Le titre m'est venu et puis je pourrais écrire tout un livre où on parlerait des mains et puis du rapport avec le monde, avec les mains. Et la fille de l'autocar, c'est un peu pareil, donc c'est venu assez vite. Mais il y a d'autres titres qui sont très très longs à venir. Ouais. Donc c'est très important. Ouais, c'est...
Trois oreilles sur le parcours. Au premier, la porte s'ouvre, la chanson du mer monte à bord.
Au deuxième, la porte s'ouvre, une fleur de polonia monte à bord.
Au troisième, la porte s'ouvre, le ciel aplatit sa grosse langue sur ma joue et monte à bord.
Terminus, la porte s'ouvre, la fille de l'autocar descend et avec elle.
Le chant, le parfum, l'azur.
La pluie tombe sur la plaine.
La plaine s'étend sur la terre.
La terre s'empoigne avec le ciel.
La fille de l'autocar claque des doigts.
Les deux tours de la cathédrale de Chartres transpercent l'horizon.
Bravo. Quand soudain, je tourne la tête vers la fille de l'autocar. Le soleil sort du bois. Ce matin, un ciel pommelé accueille l'autocar à bras ouverts. Et avec lui, les lièvres qui dansent en rond dans les champs. La graminée sur le talus, la fourmi et même son ombre. Depuis que la fille de l'autocar est revenue, quelque chose a changé sur la plaine. À l'horizon, la ligne des champs s'est adoucie. Des courbes atténuent la raideur du paysage. « Oh !» s'écrie la fille de l'autocar. Au bout de son doigt, un busard Saint-Martin dessine un grand cercle autour du soleil. Vous avez écrit des poèmes ?
Oui.
Ah ben, faudra me les faire lire.
Oui.
Ah ben oui, il faut lire les poèmes que vous avez écrits alors. Ah ben oui, oui.
Ma maison ressemble à toutes les maisons. Elle a une piscine et ma cuisine. Et ma cousine se baigne souvent dedans. Et dans ma chambre, il y a 50 millions de jouets qui traînent par terre. Et une minuscule télévision.
Dans ma maison ressemble à toutes les maisons. Elle a une porte qui est magique. Cette porte m'endort dans un rêve où je suis... Dans un univers, suis-je dans les étoiles ou bien dans la lune ?
Ah, une porte qui ouvre sur un autre univers. Toujours intéressant.
Où suis-je ? Suis-je ici ou bien là-bas ? Suis-je dans les nuages ou dans les étoiles ? Où serai-je quand je deviendrai plus grande ? Est-ce que je suis vraiment là ou bien par là ? Peut-être que je n'existe pas.
Oh, c'est très bien celui-ci. Très rythmé.
Qui es-tu ? Tu es qui ? Es-tu ? Tu n'es pas ça, ni ceci. Tu peux être ça, non pas du tout. On ne sait pas vraiment. Tu es ni quoi tu ressembles. Tu as une bouche. Non, je ne le crois pas. C'est bon, je sais comment tu es. Tu es le ciel.
Ah, d'accord. Pas mal. Très bien.
De ma maison. Ma maison ressemble à toutes les maisons. Elle a des murs plantés au sol. Elle n'a pas d'étage, mais beaucoup de pages. Il y a mon jardin qui a plein de noix. Mon salon est grand. Nous avons une grande télé.
Ah. C'est bien, mon poème. Très beau, hein. L'autocar suit sa route à travers la plaine. Tout au fond de l'horizon, les nuages s'amassent, formant une chaîne de montagnes qui n'existe pas sur les cartes. Au-delà du dernier arrêt, j'aimerais qu'une autre route commence, comme un itinéraire bis qui s'inventerait à mesure. Un matin comme les autres, où tapis au cœur des choses, le printemps sommeille. Un printemps comme les autres, plein de confiance en la vie éternelle des coquelicots, l'explosion se produit. En un battement d'ailes, les lèvres de la fille de l'autocar se sont posées sur les miennes, provoquant l'éruption de mon Krakatoa.
Cette émission est terminée. On se retrouve dans quelques jours pour écouter à nouveau de la poésie au cours du 24e Printemps des Poètes.